Comment s'appelle le sonneur de Notre-Dame?
Quasimodo, Majesté. Le peuple l'appelle aussi le bossu.
Quasimodo? Voilà un nom étrange.
Eh bien, Quasimodo, nous savions que tu étais laid, mais nous ignorions que tu étais autant que ça. On t'a jamais encore vu d'aussi près. Tu es tout le temps perché au sommet des tours. Nous allons te nommer maintenant roi des fous. Tu es content?
Ça peut pas faire de mal.
Mais d'où sort-elle, cette Esmeralda?
D'Égypte. Elle ose parfois venir danser sur le parvis. J'ai demandé qu'on la chasse, mais vainement. Une bien redoutable créature.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
En un clin d'œil, tout fut prêt. La petite chapelle située en face de la table de marbre fut choisie pour le théâtre des grimaces. Bientôt, ce fut une merveilleuse grimace que celle qui rayonna au trou de la rosace. Nous n'essaierons pas de donner au lecteur une idée de ce nez tétraèdre, de cette bouche en fer à cheval, de ce petit œil gauche obstrué d'un sourcil roux en broussailles, tandis que l'œil droit disparaissait entièrement sous une énorme verrue, de ces dents désordonnées, ébréchées çà et là comme les créneaux d'une forteresse, de cette lèvre calleuse sur laquelle une de ses dents piétait comme la défense d'un éléphant, de ce menton fourchu et surtout de la physionomie répandue sur tout cela. De ce mélange de malice, d'étonnement et de tristesse. Qu'on rêve, si l'on peut, de cet ensemble. L'acclamation fut unanime. On se précipita vers la chapelle. On en fit sortir en triomphe le bienheureux pape des fous. Mais c'est alors que la surprise et l'admiration furent à leur comble. La grimace était son visage. Ou plutôt, toute sa personne était une grimace. Une grosse tête hérissée de cheveux roux, entre les deux épaules une bosse énorme dont le contre-coup se faisait sentir par devant, un système de cuisses et de jambes si étrangement fourvoyées qu'elles ne pouvaient se toucher que par les genoux, de larges pieds, des mains monstrueuses, et avec toute cette difformité, je ne sais quelle allure redoutable de vigueur, d'agilité et de courage. Étrange exception à la règle éternelle qui veut que la force, comme la beauté, résulte de l'harmonie. Tel était le pape que les fous venaient de se donner. On eût dit un géant brisé et mal ressoudé.
La charité! La charité!
Quand cette espèce de cyclope parut sur le seuil de la chapelle, immobile, trapu et presque aussi large que haut, et surtout à la perfection de sa laideur, la populace le reconnut sur le champ et s'écria d'une voix « C'est Quasimodo, le sonneur de cloches! C'est Quasimodo, le bossu de Notre-Dame! Quasimodo, le borgne! Quasimodo, le bancal! Noël! Noël !» Puis la procession hurlante et déguenillée se mit en marche pour faire, selon l'usage, la tournée intérieure des galeries du palais avant la promenade des rues et des carrefours.
La charité! La charité!
C'est par cette scène de liesse que débute l'intrigue de Notre-Dame de Paris, le célèbre roman de Victor Hugo, paru le 16 mars 1831.
La charité!
En exergue figure une inscription en grec, Ananke, qui signifie fatalité. Une notion qui a inspiré la trame du récit. Si Notre-Dame de Paris relève du genre historique, son auteur affirme mieux croire au roman qu'à l'histoire, parce qu'il préfère la vérité morale à la vérité historique. Il sera donc question de morale, mais aussi de politique, car ce roman développe une réflexion passionnante sur une période méconnue de l'histoire, le Moyen-Âge. Du patrimoine architectural à la justice, en passant par les arcanes de l'Église et les intrigues du pouvoir royal, Victor Hugo s'exprime sur tous ses avis de la vie de l'époque. Avec Notre-Dame de Paris, l'auteur s'impose comme l'un des plus importants écrivains du XIXe siècle, un véritable romancier du peuple. Ce soir, en ouverture d'un cycle de trois émissions consacrées à l'œuvre de Victor Hugo, feuilletons quelques-unes des plus belles pages de Notre-Dame de Paris. Nous sommes en 1482, à Paris, Claude Frollo, l'archidiacre de la cathédrale Notre-Dame, est amoureux d'Esmeralda, belle bohémienne. Il ordonne à Quasimodo, le sonneur de cloches, de l'enlever. mais elle est sauvée par le capitaine Phébus dont elle s'éprend. Tout se joue autour de ce triangle amoureux qui gravite autour de la somptueuse cathédrale Notre-Dame. Après le portrait de Quasimodo, faisons à présent la connaissance des autres protagonistes de l'histoire. Pierre Gringoire, un poète sans le sou, est mandaté pour organiser un mystère à l'occasion de Noël. Mais son spectacle est interrompu par l'élection du pape des fous à laquelle nous venons d'assister. Après avoir suivi la procession mettant à l'honneur Quasimodo, Pierre Gringoire rencontre Esmeralda sur la place de Grève. Il remarque aussi Claude Frollo, l'archidiacre de la cathédrale Notre-Dame. Peu à peu, les destins de ces personnages se nouent. Voici un extrait du livre 2e, chapitre 3. Lorsque Pierre Gringoire arriva sur la place de Grève, il était transi de froid. Aussi se hâta-t-il de s'approcher du feu de joie qui brûlait magnifiquement au milieu de la place. Mais une foule considérable faisait cercle alentour. Dans un vaste espace laissé libre entre la foule et le feu, une jeune fille dansait. Si cette jeune fille était un être humain ou une fée ou un ange, c'est ce que Gringoire, tout philosophe sceptique, tout poète ironique qu'il était, ne put décider dans le premier moment tant il fut fasciné par cette éblouissante vision. Elle n'était pas grande, mais elle le semblait, tant sa fine taille s'élançait hardiment. Elle était brune, mais on devinait que le jour sa peau devait avoir ce beau reflet doré des Andalouses et des Romaines. Elle dansait, elle tournait. Elle tourbillonnait sur un vieux tapis de Perse jeté négligemment sous ses pieds. Et chaque fois qu'en tournoyant sa rayonnante figure passait devant vous, ses grands yeux noirs vous jetaient un éclair. Autour d'elle, tous les regards étaient fixes, toutes les bouches ouvertes. Mince, frêle et vive comme une guêpe, avec son corsage d'or sans plis, sa robe bariolée qui se gonflait avec ses épaules nues, ses jambes fines que sa jupe découvrait par moments, ses cheveux noirs, ses yeux de flamme, c'était une surnaturelle créature. Parmi les mille visages que cette lueur teignait d'écarlate, il y en avait un qui semblait plus encore que tous les autres absorbé dans la contemplation de la danseuse. C'était une figure d'homme austère, calme et sombre. Cet homme, dont le costume était caché par la foule qui l'entourait, ne paraissait pas avoir plus de 35 ans. Cependant, il était chauve. À peine avait-il aux tempes quelques touffes de cheveux rares et déjà gris. Son front large et haut commençait à se creuser de rides. Mais dans ses yeux enfoncés éclatait une jeunesse extraordinaire, une vie ardente, une passion profonde. Il les tenait sans cesse attachés sur la bohémienne. De temps en temps, un sourire et un soupir se rencontraient sur ses lèvres, mais le sourire était plus douloureux que le soupir. La jeune fille essoufflée s'arrêta enfin et le peuple l'applaudit avec amour.
Sacrilège! Profanation! Tonna la voix de l'homme chauve.
La bohémienne se retourna.
Ah, dit-elle, c'est ce vilain homme.
T'en iras-tu, sauterelle d'Égypte ? Cria une voix aigre qui partait du coin le plus sombre de la place.
La jeune fille se retourna effrayée. Ce n'était plus la voix de l'homme chauve. C'était une voix de femme, une voix de dévote et méchante. Alors elle se mit à chanter. Il en était de sa voix comme de sa danse, comme de sa beauté. C'était indéfinissable et charmant, quelque chose de pur, de sonore, d'aérien, d'ailé pour ainsi dire. C'était de continuels épanouissements, des mélodies, des cadences inattendues. Son beau visage suivait avec une mobilité singulière tous les caprices de sa chanson, depuis l'inspiration la plus échevelée jusqu'à la plus chaste dignité. On eût dit tantôt une folle, tantôt une reine. Le moment fut court. La même voix de femme qui avait interrompu la danse de la bohémienne vint interrompre son chant.
« T'en iras-tu, cigale d'enfer ? »
cria-t-elle toujours du même coin obscur de la place. Mais la vieille fut distraite en ce moment même par la procession du pape des fous, qui après avoir parcouru force rues et carrefours, débouchait dans la place de Grève, avec toutes ses torches et toute sa rumeur. Il est difficile de donner une idée du degré d'épanouissement orgueilleux et béat où le triste et hideux visage de Quasimodo était parvenu pendant le trajet. C'était la première jouissance d'amour-propre qu'il eût jamais éprouvée. Ce ne fut donc pas sans surprise et sans effroi que l'on vit tout à coup, au moment où Quasimodo, dans cette demi-ivresse, passait triomphalement devant la maison aux piliers, un homme s'élançait de la foule et lui arrachait des mains, avec un geste de colère, sa crosse de bois doré, insigne de sa folle papauté. Cet homme, ce téméraire, c'était le personnage au front chauve. Il était revêtu du costume ecclésiastique. C'était Don Claude Frollo, l'archidiacre. Quasimodo fit un bond jusqu'au prêtre, le regarda et tomba à genoux. Puis il s'établit entre eux un étrange dialogue de signes et de gestes, car ni l'un ni l'autre ne parlait. Le prêtre, debout, irrité, menaçant, impérieux, Quasimodo prosterné, humble, suppliant. Enfin l'archidiacre, secouant rudement la puissante épaule de Quasimodo, lui fit signe de se lever et de le suivre. Quasimodo se leva. On les laissa s'enfoncer tous deux dans une rue étroite et ténébreuse où nul n'osa se risquer après eux. Découvrons à présent l'édifice majestueux de la cathédrale Notre-Dame, personnage à part entière de l'intrigue. Extrait du livre 3e, chapitre 1er. Sans doute, c'est encore aujourd'hui un majestueux et sublime édifice que l'église de Notre-Dame de Paris. Mais si belle qu'elle soit conservée en vieillissant, il est difficile de ne pas soupirer, de ne pas s'indigner devant les dégradations, les mutilations sans nombre que simultanément le temps et les hommes ont fait subir au vénérable monument, sans respect pour Charlemagne qui en avait posé la première pierre, pour Philippe Auguste qui en avait posé la dernière. Sur la face de cette vieille reine de nos cathédrales, à côté d'une ride, on trouve toujours une cicatrice. Tempus edax homo edacior. Ce que je traduirais volontiers ainsi, le temps est aveugle, l'homme est stupide. Et d'abord, pour ne citer que quelques exemples capitaux, il est à coup sûr peu de plus belle architecturale que cette façade, où successivement et à la fois, les trois portails creusés en ogive, le cordon brodé et dentelé des 28 niches royales, l'immense rosace centrale flanquée de ses deux fenêtres latérales comme le prêtre du diacre et du sous-diacre, la haute et frêle galerie d'arcade à trèfle qui porte une lourde plateforme sur ses fines colonnettes, enfin les deux noires et massives tours avec leurs auvents d'ardoise, partie harmonieuse d'un tout magnifique, superposé en 5 étages gigantesques, se développent à l'œil en foule et sans trouble, avec leurs innombrables détails de statuaire, de sculpture et de ciselure, ralliés puissamment à la tranquille grandeur de l'ensemble. Vaste symphonie en pierre, pour ainsi dire, œuvre colossale d'un homme et d'un peuple, tout ensemble une et complexe, comme les Iliades et les Romanceros dont elle est la sœur. Produit prodigieux de la cotisation de toutes les forces d'une époque où sur chaque pierre on voit saillir en 100 façons la fantaisie de l'ouvrier discipliné par le génie de l'artiste. Sorte de création humaine en un mot, puissante et féconde comme la création divine dont elle semble dérober le double caractère, variété, éternité. Et ce que nous disons ici de la façade, il faut le dire de l'Église entière. Et ce que nous disons de l'Église cathédrale de Paris, il faut le dire de toutes les églises de la chrétienté du Moyen-Âge. Mesurer l'orteil du pied, c'est mesurer le géant. Notre-Dame de Paris n'est point du reste ce qu'on peut appeler un monument complet, défini, classé. Ce n'est plus une église romane, ce n'est pas encore une église gothique. Cet édifice n'est pas un type, c'est un édifice de la transition. Notre-Dame de Paris est en particulier un curieux échantillon de cette variété. Chaque face, chaque pierre est une page non seulement de l'histoire du pays, mais encore de l'histoire de la science et de l'art. L'homme, l'artiste, l'individu s'efface sur ces grandes masses sans nom d'auteur. L'intelligence humaine s'y résume et s'y totalise. Le temps est l'architecte, le peuple est le maçon.
ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Retrouvons désormais le pauvre Quasimodo en bien mauvaise posture. Claude Frollo, qui a adopté et élevé Quasimodo depuis sa plus tendre enfance, ordonne à ce dernier d'enlever la belle Esmeralda dont il est amoureux.
Maître, on n'est plus pareil. Vous avez du malheur.
Du malheur? Qu'ai-je d'autre ici-bas que du malheur? C'est la fête pour les autres, jamais pour moi. Va me la chercher.
Maître, elle est si belle.
Tant pis pour elle, tant pis pour moi. Est-ce ma faute si elle danse, si elle remue, si elle est vivante? Est-ce ma faute si ça existe, la beauté? Est-ce ma faute si elle me rend fou comme les autres?
Quasimodo lui obéit, mais l'enlèvement échoue. La bohémienne est sauvée in extremis par le capitaine Phébus. Après un procès absurde, Quasimodo est condamné à subir 2 heures de fouet et de pilori. Extrait du livre 6e, chapitre 3. Cette populace, disciplinée à l'attente des exécutions publiques, ne manifestait pas trop d'impatience. Elle se divertissait à regarder le pilori. Le patient arriva enfin lié au cul d'une charrette, et quand il eut été hissé sur la plateforme, quand on eut pu le voir de tous les points de la place ficelé à cordes et à courroies sur la roue du pilori, une huée prodigieuse mêlée de rires et d'acclamations éclata dans la place. On avait reconnu Quasimodo. C'était lui, en effet. Le retour était étrange sur cette même place où, la veille encore, il avait été salué, acclamé et conclamé pape et prince des fous. Quasimodo, impassible, ne sourcillait pas. Il s'était laissé mener, pousser, porter, jucher, lier et relier. On ne pouvait rien deviner sur sa physionomie qu'un étonnement de sauvage ou d'idiot. On le savait sourd, on l'eût dit aveugle. On le mit à genoux sur la planche circulaire, il s'y laissa mettre. On le dépouilla de chemise et de pourpoint jusqu'à la ceinture, il se laissa faire. Ce fut un fou rire dans la foule quand on vit à nu la bosse de Quasimodo, sa poitrine de chameau, ses épaules calleuses et velues. Enfin, le tourmenteur frappa du pied. La roue se mit à tourner. Quasimodo chancela sous ses liens. La stupeur qui se peignit sur son visage difforme fit redoubler alentour les éclats de rire. Quasimodo sauta sur lui-même comme réveillé en sursaut. Il commençait à comprendre. Un second coup suivit le premier, puis un troisième, et un autre, et toujours. Bientôt le sang jaillit, on le vit ruisseler par mille filets sur les noires épaules du bossu, et les grêles lanières dans leur rotation qui déchiraient l'air l'éparpillaient en gouttes dans la foule. Quasimodo avait repris en apparence du moins son impassibilité première. Il avait essayé d'abord sourdement et sans grande secousse extérieure de rompre ses liens. Puis la stupeur fit place sur ses traits à un sentiment d'amer et profond découragement. Dès lors, il ne bougea plus. Rien ne put lui arracher un mouvement. Enfin, un huissier vêtu de noir, monté sur un cheval noir, étendit sa baguette d'ébène vers le sablier. Le tourmenteur s'arrêta, la roue s'arrêta, l'œil de Quasimodo se rouvrit lentement. La flagellation était finie. Le temps s'écoulait. Il était là depuis une heure et demie au moins, déchiré, maltraité, moqué, sans relâche et presque lapidé. Tout à coup, il s'agita de nouveau dans ses chaînes avec un redoublement de désespoir et rompant le silence qu'il avait obstinément gardé jusqu'alors, il cria avec une voix rauque et furieuse « À boire ! À boire ! À boire !» En ce moment, il vit s'écarter la populace. Une jeune fille bizarrement vêtue sortit de la foule. Elle était accompagnée d'une petite chèvre blanche à cornes dorées et portait un tambour de basque à la main. L'œil de Quasimodo étincela. C'était la bohémienne qu'il avait essayé d'enlever la nuit précédente, pour laquelle il sentait confusément qu'on le châtiait en cet instant même. Il la vit monter rapidement l'échelle. La colère et le dépit le suffoquaient. Elle s'approcha sans dire une parole et détachant une gourde de sa ceinture, elle la porta doucement aux lèvres arides du misérable. Alors, dans cet œil jusque-là si sec et si brûlé, on vit rouler une grosse larme qui tomba longuement le long de ce visage difforme. C'était la première peut-être que l'infortuné eût jamais versée. C'eût été partout un spectacle touchant que cette belle fille, fraîche, pure, charmante et si faible en même temps, ainsi pieusement accourue au secours de tant de misère, de difformité et de méchanceté. Sur un pilori, ce spectacle était sublime. Tout ce peuple lui-même en fut saisi et se mit à battre des mains en criant « Noël ! Noël !» Assistons à présent au drame qui va précipiter les événements. Les jours passent, Claude Frollo est rongé par sa passion pour l'Égyptienne et par sa jalousie pour Phébus. Ce dernier, qui ne partage pas les sentiments de la jeune fille, souhaite malgré tout passer une nuit avec elle. Tourmenté par le désir, Frollo demande à Phébus d'assister en secret à leur rendez-vous, en échange d'argent. Le capitaine accepte le marché, mais le tête-à-tête galant tourne mal. Extrait du livre 7e, chapitre 7. Les deux hommes se remirent à marcher rapidement. Bientôt, Phébus s'arrêta devant une porte basse et heurta rudement. La porte s'ouvrit sur une vieille femme. Elle fit signe aux deux gentilshommes de la suivre et monta l'échelle devant eux. « Entrez là, mon cher, » dit le capitaine à son compagnon. L'homme au manteau obéit sans répondre une parole. La porte retomba sur lui. Il entendit Phébus la refermer au verrou. L'obscurité se fit. Claude Frollo attendait depuis un quart d'heure. Il lui semblait avoir vieilli d'un siècle. Tout à coup, il entendit craquer les marches de l'escalier de bois. Quelqu'un montait. La trappe se rouvrit. Une lumière reparut. Il y avait à la porte vermoulue de son bouge une fente assez large. Il y colla son visage. Phébus et Esmeralda étaient seuls, assis sur le coffre de bois à côté de la lampe. La jeune fille était rouge, interdite, palpitante. L'officier sur lequel elle n'osait lever les yeux rayonnait. Le capitaine, enhardi par sa douceur, lui prit la taille sans qu'elle résistât, puis se mit à délacer à petit bruit le corsage de la pauvre enfant et dérangea si fort sa gorgette que le prêtre, haletant derrière la fine cloison, vit sortir de la gaze la belle épaule nue de la bohémienne, ronde et brune comme la lune qui se lève dans la brume à l'horizon. « Belle amoureuse, » dit tendrement Phébus. En parlant ainsi de sa voix la plus douce, il s'approchait extrêmement près de l'Égyptienne. Ses mains caressantes avaient repris leur pose autour de cette taille si fine. Dont Claude, cependant, voyait tout. Ce prêtre à peau brune et à larges épaules, jusque-là condamné à l'austère virginité du cloître, frissonnait et bouillait devant cette scène d'amour, de nuit et de volupté. Tout à coup, Phoebus enleva d'un geste rapide la gorgette de l'Égyptienne. Or, le geste du capitaine avait mis à découvert une amulette mystérieuse qu'elle portait au cou. « Qu'est-ce que cela ? » dit-il en saisissant ce prétexte pour se rapprocher de la belle créature qu'il venait d'effaroucher. « N'y touchez pas, » répondit-elle vivement. « C'est ma gardienne. C'est elle qui me fera retrouver ma famille si j'en reste digne. » Phoebus recula et dit d'un ton froid, « Oh, mademoiselle, que je vois bien que vous ne m'aimez pas. »« Je ne t'aime pas ? Que m'importe l'amulette ? Que m'importe ma mère ? C'est toi qui es ma mère, puisque je t'aime. En attendant, prends-moi. Tiens, Phoebus. » « Aime-moi seulement. » En parlant ainsi, elle jetait ses bras autour du cou de l'officier. Elle tordait sur ses genoux son beau corps à demi nu. Le capitaine, enivré, colla ses lèvres ardentes à ses belles épaules africaines. Renversée en arrière, elle vit soudain au-dessus de la tête de Phoebus une figure livide, verte, convulsive, avec un regard de damné. Près de cette figure, il y avait une main qui tenait un poignard. C'était la figure et la main du prêtre. La jeune fille resta immobile, glacée, muette. Elle ne put même pousser un cri. Elle vit le poignard s'abaisser sur Phoebus et se relever fumant. Elle s'évanouit. Quand elle reprit ses sens, elle était entourée de soldats du guet. On emportait le capitaine baigné dans son sang. Le prêtre avait disparu. Elle entendait seulement dire autour d'elle « C'est une sorcière qui a poignardé un capitaine !» Retrouvons Esmeralda le jour de sa condamnation pour l'assassinat de Phoebus.
Vous reconnaissez l'accusé ?
C'est elle, et pas une autre. Et là, c'est sans bouc qui sentait le sabbat. Oh messieurs, ma pauvre chambre, tout en sang, la plus belle, la plus propre, tout en sang. Et puis le capitaine beau comme un grand seigneur qui baignait dedans. Et la fille tout débraillée, et le bouc qui gambadait. Je jurerais qu'il riait.
Accusée de meurtre, Esmeralda est jugée et condamnée à la pendaison. Elle croit à la mort du beau capitaine dont elle était prise, mais elle va vite découvrir que celui-ci est vivant, en retraite chez sa cousine, la courtisane Fleur de Lys, sa rivale. Parmi l'assistance se trouvent l'affreux Frollo et Quasimodo. Extrait du livre 8e, chapitre 6. La place du parvis de Notre-Dame sur laquelle donnait le balcon auquel Phoebus et Fleur de Lys étaient postés présentait en ce moment un spectacle sinistre. Une foule immense qui refluait dans toutes les rues adjacentes encombrait la place proprement dite. La surface de cette cohue était grise, sale et terreuse. Un tombereau traîné d'un fort limonier normand venait de déboucher sur la place par la rue Sainte-Pierre-aux-Bœufs. Dans la fatale voiture, une jeune fille était assise, les bras liés derrière le dos, sans prêtre à côté d'elle. Ses longs cheveux noirs tombaient épars sur sa gorge et sur ses épaules à demi ouvertes. La condamnée retenait avec ses dents sa chemise mal attachée. On eût dit qu'elle souffrait encore dans sa misère d'être ainsi livrée presque nue à tous les yeux. Force fut au malencontreux capitaine de demeurer. Ce qui le rassurait un peu, c'est que la condamnée ne détachait pas son regard du plancher de son tombereau. Ce n'était que trop véritablement Esmeralda. Nous devons dire toutefois, pour être fidèle historien, qu'en la voyant si belle, beaucoup s'étaient émus de pitié et des plus durs. Le tombereau était entré dans le parvis. On lui délia les mains, on la fit descendre accompagnée de sa chèvre et on la fit marcher pieds nus sur le dur pavé jusqu'au bas des marches du portail. La corde qu'elle avait au cou traînait derrière elle. On eût dit un serpent qui la suivait. L'archidiacre s'approcha d'elle lentement. Il se pencha à son oreille et ajouta « Veux-tu de moi ?» « Je puis encore te sauver. » Elle le regarda fixement. « Va-t'en, démon, ou je te dénonce. » Il se prit à sourire d'un sourire horrible. Alors, levant la main sur l'Égyptienne, il s'écria d'une voix funèbre « Deus misericors !» C'était le signal convenu du prêtre au bourreau. La malheureuse, au moment de s'acheminer vers sa dernière station, leva ses yeux rouges vers le ciel, vers le soleil, puis les abaissa jusqu'au balcon. À ce balcon, là-bas, elle venait d'apercevoir Phoebus. Une pensée monstrueuse venait de lui apparaître. Elle se souvenait qu'elle avait été condamnée pour meurtre sur la personne de Phoebus de Châteaupers. Elle avait tout supporté jusque-là, mais ce dernier coup était trop rude. Elle tomba sans mouvement sur le pavé. Personne n'avait encore remarqué dans la galerie des statues des rois un spectateur étrange qui avait tout examiné jusqu'alors. Ce spectateur n'avait rien perdu de ce qui s'était passé depuis midi devant le portail de Notre-Dame. Et sans que personne ne songeât à l'observer, il avait fortement attaché à l'une des colonnettes de la galerie une grosse corde à nœuds dont le bout allait traîner en bas sur le perron. Tout à coup, au moment où les bourreaux se disposaient à exécuter leur ordre, il enjamba la balustrade de la galerie, saisit la corde des pieds, des genoux et des mains, puis on le vit couler sur la façade comme une goutte de pluie, enlever l'égyptienne d'une main comme un enfant sa poupée, et d'un seul élan rebondir jusque dans l'église, en élevant la jeune fille au-dessus de sa tête et en criant d'une voix formidable « Asile ! Asile ! Asile !» répéta la foule. Et 10 000 battements de mains firent étinceler de joie et de fierté l'œil unique de Quasimodo.
Le droit d'asile. Pensez que de nos jours, une païenne, une créature du diable, peut se promener sur le toit de la maison de Dieu. Mais combien de temps va-t-elle rester là-haut à nous larguer, à insulter nos lois? Des années, peut-être.
C'est une fille sauvage. Elle essaiera de sortir. On la guette et elle se fera prendre.
Pendre, j'espère bien. Pendre.
Voici l'émouvante et silencieuse déclaration d'amour de Quasimodo pour la belle. Retrouvons désormais Quasimodo enfermé dans la cathédrale Notre-Dame avec Esmeralda qu'il vient de sauver de la pendaison. Par pudeur, il prend soin de sa protégée, mais n'ose se montrer à elle. Extrait du livre 9e, chapitre 4. À dater de ce jour, l'Égyptienne ne le vit plus. Il cessa de venir à sa cellule. Au fond du cœur, elle lui en savait gré. Elle ne le voyait plus, mais elle sentait la présence d'un bon génie autour d'elle. Quelquefois, le soir, elle entendait une voix cachée sous les abat-vents du clocher, chanter comme pour l'endormir une chanson triste et bizarre. « Ne regarde pas la figure, jeune fille, regarde le cœur. Le cœur d'un beau jeune homme est souvent difforme. » Il y a des cœurs où l'amour ne se conserve pas. Un matin, elle vit en s'éveillant sur sa fenêtre deux vases pleins de fleurs. L'un était un vase de cristal, fort beau et brillant, mais fêlé. Les fleurs qu'il contenait étaient donc fanées. L'autre était un pot de grès, grossier et commun, mais dont les fleurs étaient restées fraîches et vermeilles. Je ne sais pas si ce fut avec intention, mais Esmeralda prit le bouquet fané et le porta tout le jour sur son sein. Ce jour-là, elle n'entendit pas la voix de la tour chanter. Elle avait du reste tout à fait cessé de voir, cessé d'entendre Quasimodo. Le pauvre sonneur semblait avoir disparu de l'église. Une nuit pourtant, comme elle ne dormait pas et songeait à son beau capitaine, elle entendit soupirer près de sa cellule. Effrayée, elle se leva et vit à la lumière de la lune une masse informe couchée en travers devant sa porte. C'était Quasimodo qui dormait là sur une pierre.
Pourquoi te caches-tu? Tu as peur que je te regarde? Dans un pays où tout le monde serait bâti comme toi, moi, on me jetterait des pierres.
J'ai toujours été laid. J'ai toujours fait peur. Ça m'était égal. Mais pour faire peur à vous, ça me fait de la peine.
When I am laid,
thank you.
Mais pendant ce temps, Claude Frollo prépare sa vengeance. Avec l'aide de Pierre Gringoire et de Truand, Claude Frollo réussit à enlever Esmeralda de son refuge. Mais la belle égyptienne retombe sous le coup de sa condamnation. Alors qu'ils sont poursuivis par des gardes, Frollo lui fait un horrible chantage. Extrait du livre 11e, chapitre 1er. Ils arrivèrent ainsi, toujours le long du quai, à une place assez grande. C'était la grève. On distinguait au milieu une espèce de croix noire debout. C'était le gibet. Elle reconnut tout cela et vit où elle était. L'homme s'arrêta, se tourna vers elle et leva sa carapou. « Oh ! » bégaya-t-elle pétrifiée. « Je savais bien que c'était encore lui. » C'était le prêtre. Il avait l'air de son fantôme. « Écoute, lui dit-il. » Et elle frémit au son de cette voix funeste. Il continua. « Écoute, nous sommes ici. La destinée nous livre l'un à l'autre. Je vais décider de ta vie, toi de mon âme. Écoute-moi donc. D'abord, ne me parle pas de ton Phébus. Ne détourne point la tête ainsi. Écoute-moi. C'est une affaire sérieuse. Il y a un arrêt du Parlement qui te condamne à l'échafaud. Je viens de te tirer de leurs mains, mais ils te poursuivent. Regarde. Tu vois bien qu'ils te poursuivent et que je ne te mens pas. Moi, je t'aime. N'ouvre pas la bouche, ne me parle pas si c'est pour me dire que tu me hais. » Il s'interrompit violemment. « Non, ce n'est pas cela qu'il faut dire. » Et courant et la faisant courir, il marcha droit au gibet et le lui montrant du doigt, « Choisis entre nous deux, » dit-il froidement. Elle s'arracha de ses mains et tomba au pied du gibet en embrassant cet appui funèbre. Enfin, elle lui dit, « Il me fait encore moins horreur que vous. » Alors il laissa retomber lentement son bras et regarda le pavé avec un profond accablement. Il cacha son visage dans ses mains. La jeune fille l'entendit pleurer. C'était la première fois. Ainsi, debout et secoué par les sanglots, il était plus misérable et plus suppliant qu'à genoux. Il pleura ainsi un certain temps. Puis un frôlement de la jeune fille, qui retirait son pied de dessous lui, le fit revenir à lui. Il passa lentement sa main sur ses joues creuses et regarda quelques instants avec stupeur ses doigts mouillés. « Hélas, vous m'avez regardé froidement pleurer. Enfant, sais-tu que ces larmes sont des laves ?» Elle lui dit, « Vous êtes un assassin. » Le prêtre la prit dans ses bras avec fureur et se mit à rire d'un rire abominable. « Eh bien, oui, assassin, dit-il, et je t'aurai. » Son œil pétillait d'impureté et de rage. Sa bouche lascive rougissait le cou de la jeune fille. Elle se débattait dans ses bras et la couvrait de baisers écumants. « Ne me mords pas, monstre » cria-t-elle. « Oh, l'odieux moine infect !» Il rougit, il pâlit, puis il la lâcha et la regarda d'un air sombre. Elle se crut victorieuse et poursuivit. « Je te dis que je suis à Phébus, que c'est Phébus que j'aime, que c'est Phébus qui est beau. Toi, prêtre, tu es vieux, tu es laid, va-t'en !» Il poussa un cri violent. « Meurs donc » dit-il à travers un grincement de dents. Il la reprit, il la secoua, il la jeta à terre en la traînant après lui sur le pavé par ses belles mains. Arrivé là, il se tourna vers elle. « Une dernière fois, veux-tu être à moi ?» Elle répondit avec force. « Non. » Alors il s'écria d'une voix haute. « Gudule, Gudule, voici l'Égyptienne, venge-toi !» Et il la livra à une vieille sorcière. Voici le dénouement tragique de l'intrigue. Furieux qu'Esmeralda se refuse à lui, Frollo la jette dans le trou aux rats, une cellule sous la place de grève où vit une affreuse vieille femme. Esmeralda découvre que cette prisonnière est en réalité sa mère, dont elle a été séparée enfant. Mais les retrouvailles ne durent pas. Par malheur, la police vient arrêter Esmeralda. Elle sera finalement pendue en place de grève. Pendant ce temps, Quasimodo découvre la disparition de sa protégée et part à sa recherche. Extrait du livre 11e, chapitre 2. Quand Quasimodo vit que la cellule était vide, que l'Égyptienne n'y était plus, qu'on l'avait enlevée, il prit ses cheveux à deux mains et trépigna de surprise et de douleur. Il fit 20 fois, 100 fois le tour de l'église, de long en large, du haut en bas, montant, descendant, courant, appelant, criant, flairant, fouillant, fourrant sa tête dans tous les trous, poussant une torche sous toutes les voûtes, désespéré, fou. Il paraît que ce fut alors que, cherchant au fond de sa rêverie désolée quel pouvait être le ravisseur inattendu de l'Égyptienne, il songea à l'archidiacre. Il se souvint que Don Claude avait seul une clé de l'escalier qui menait à la cellule. Il se rappela 1000 détails et ne douta plus bientôt que l'archidiacre ne lui eût pris l'Égyptienne. Au moment où sa pensée se fixait ainsi sur le prêtre, il vit à l'étage supérieur de Notre-Dame une figure qui marchait. Cette figure venait de son côté. Il la reconnut, c'était l'archidiacre. Claude allait d'un pas grave et lent. Le sourd, que cette brusque apparition avait pétrifié, le vit s'enfoncer sous la porte de l'escalier de la tour septentrionale. Le lecteur sait que cette tour est celle d'où l'on voit l'hôtel de ville. Quasimodo suivit l'archidiacre. Il était plein de fureur et plein de crainte. Quand il fut parvenu au sommet de la tour, il examina avec précaution où était le prêtre. Il lui tournait le dos. Le prêtre, dont les yeux plongeaient sur la ville, avait la poitrine appuyée à celui des quatre côtés de la balustrade qui regarde le pont Notre-Dame. Quasimodo, s'avançant à pas de loup derrière lui, allait voir ce qu'il regardait ainsi. Le regard du malheureux sourd tomba sur la place de Grève. Une échelle était dressée près du gibet permanent. Il y avait quelques peuples dans la place et beaucoup de soldats. Un homme traînait sur le pavé une chose blanche à laquelle une chose noire était accrochée. Cet homme s'arrêta au pied du gibet. Il se mit à monter l'échelle. Alors Quasimodo vit distinctement. Il portait une femme sur son épaule, une jeune fille vêtue de blanc. Cette jeune fille avait un nœud au cou. Quasimodo la reconnut. C'était elle. Tout à coup, l'homme repoussa brusquement l'échelle du talon et Quasimodo, qui ne respirait plus depuis quelques instants, vit se balancer au bout de la corde, à 2 toises au-dessus du pavé, la malheureuse enfant. Quasimodo vit courir d'horribles convulsions sur le long corps de l'Égyptienne. Le prêtre, de son côté, le cou tendu, l'œil hors de la tête, contemplait ce groupe épouvantable de l'homme et de la jeune fille, de l'araignée et de la mouche. Au moment où c'était le plus effroyable, un rire de démon, un rire qu'on ne peut avoir que lorsqu'on n'est plus un homme, éclata sur le visage livide du prêtre. Quasimodo n'entendit pas ce rire, mais il le vit. Le sonneur recula de quelques pas derrière l'archidiacre et tout à coup, se ruant sur lui avec fureur, de ses 2 grosses mains, il le poussa par le dos dans l'abîme. Il n'eut pour le tirer du gouffre qu'à lui tendre la main, mais il ne le regardait seulement pas. Il regardait la Grève. Il regardait le gibet. Il regardait l'Égyptienne. Il était immobile et muet comme un homme foudroyé. Et un long ruisseau de pleurs coulait en silence de cet œil qui jusqu'alors n'avait encore versé qu'une seule larme. Quasimodo pleurait. Enfin, l'archidiacre, écumant d'épouvante, comprit que tout était inutile. Il rassembla pourtant tout ce qui lui restait de force pour un dernier effort. Alors, sentant tout manquer sous lui, n'ayant plus que ses mains roidies et défaillantes qui tinssent à quelque chose, l'infortuné ferma les yeux et lâcha la gouttière. Quasimodo le regarda tomber. Il glissa rapidement sur le toit comme une tuile qui se détache et alla rebondir sur le pavé. Il ne remuait plus. Quasimodo alors releva son œil sur l'Égyptienne et il dit avec un sanglot qui souleva sa profonde poitrine « Oh, tout ce que j'ai aimé !»
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestuccia, avec à la technique Mathieu Leroux. Elle a été préparée par Estelle Gap, Laurel Maki, Irène Menahem et Elodie Royer. À la semaine prochaine pour la suite de notre cycle consacré à Victor Hugo.